Ce soir, comme hier soir et demain soir, nous parlons d'une personne. Ce n'est pas d'une force, ce n'est pas un concept théologique, c'est une personne. Cette personne est plus près de nous que nous ne le sommes de nous-mêmes. Cette personne nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Et cette personne nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes. Cette personne est l'Esprit Saint. On appelle la troisième personne de la Trinité parce que il procède du Fils, c'est-à-dire le Fils nous l'a envoyé après avoir lui-même été envoyé par le Père. C'est ainsi que la Bible explique les choses. Mais l'Esprit Saint était là, à l'ouvrage, avec le Père et le Fils, à la création du monde. Dieu le Père, on aime à dire, est l'architecte. C'est lui qui conçoit toutes choses d'après le plaisir de sa volonté. C'est lui qui a connu, qui a conçu plutôt le grand dessein universel à travers lequel il créerait une humanité. Et cette humanité servirait à manifester, mettre en vitrine sa grâce et sa gloire. Le Fils, on pourrait dire, est l'entrepreneur. C'est lui qui a fait les actions. C'est lui qui a créé la terre. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il a créé toutes choses par sa parole, Dieu le Fils. Et s'agissant de la rédemption, car ce sont les deux grandes œuvres de Dieu, la création et la rédemption, si le Père a planifié la rédemption, c'est bien le Fils qui l'a accompli, qui est descendu, qui a versé son sang, qui est allé à la croix, et en vertu de son sacrifice, on est racheté. C'est l'entrepreneur. Mais l'Esprit Saint, lui, c'est l'accompagnateur. On le voit toujours en train de veiller sur ce que le Père a conçu et sur ce que le Fils a mis en œuvre. Déjà s'agissant de la planète Terre, verset 2 du chapitre 1er, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux, à rester, à demeurer, à accompagner l'œuvre que Dieu venait de faire en créant cette planète par sa parole. Et heureusement pour nous, Christ ayant accompli notre rédemption, l'Esprit Saint est là aussi, pour veiller, pour conduire, pour aider, pour faciliter les choses. Parfois on dit, oh, je suis très très occupé. Vous et moi, on ne sait pas ce que c'est que d'être occupé. Je vais vous dire qui est occupé, c'est Dieu. Lui est occupé. Il est tellement occupé que les humains n'arrivent pas à comprendre comment il peut être disponible. Parce que quand nous sommes occupés, nous ne sommes pas disponibles, n'est-ce pas? On fait une chose à la fois et à peine on la fait bien. Mais notre Dieu qui est infini peut faire 10 milliards de choses à la seconde et être totalement disponible pour écouter notre prière. Ils sont de tous les cœurs en même temps, ça ne le fatigue même pas. Son intelligence n'a pas de limite. Ce n'est pas un grand Dieu, c'est un Dieu. Grand ne suffit pas. Même les auteurs de la Bible ne trouvaient pas les mots pour dire qu'à quel point il est grand, voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. On dit que l'univers est en pleine expansion et Dieu remplit chaque centimètre carré cube de l'univers et il y a encore un reste. Il est infiniment grand. Et en même temps, il est infiniment sensible. Infiniment sensible. On compare parfois notre salut, l'assurance de notre salut qu'on appelle la paix avec Dieu, à une grosse chaîne incassable qui est liée depuis notre barque jusqu'à une ancre qui est enfoncée dans le fond de l'océan. Et cette chaîne, rien ni personne ne peut la briser. C'est la réconciliation avec Dieu, c'est la paix avec Dieu. Une fois sauvé, toujours sauvé. C'est pas moi qui tiens sa main, c'est lui qui tient la mienne. Et nous trouvons un grand réconfort dans cette vérité. Mais il n'en est pas de même avec la paix de Dieu. Quelqu'un l'a bien décrit comme un fin fil de soie qui entoure cette chaîne. La moindre pression peut le casser. La paix de Dieu vient quand nous sommes vraiment dans sa volonté, quand notre cœur est rempli de lui, quand nous sommes remplis de l'Esprit Saint. Nous connaissons alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui surpasse tout raisonnement et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et cette paix de Dieu, c'est l'effet du Saint-Esprit qui est à l'aise, qui est chez lui, en nous. Je voudrais donc parler des ministères du Saint-Esprit ce soir, des ministères que vous connaissez. Vous ne les connaissez pas uniquement par la théologie, par votre étude de la Bible. Si vous êtes réellement né de nouveau, chaque fois que je parlerai d'une action du Saint-Esprit, vous allez vous souvenir quand ça a eu lieu. Il y a des actions de l'Esprit Saint que l'on ne ressent pas tout de suite, mais que généralement on remarque au bout d'un petit moment. Il y a des actions du Saint-Esprit que l'on ressent très fort. C'est pas uniquement une question de sentiment. C'est beaucoup plus profond qu'un sentiment. C'est quelque part dans notre fort intérieur, on sait qu'il y a une œuvre qui se fait. On serait incapable à ce moment-là de décrire ce qui se passe. Mais l'œuvre n'est pas moins réelle. Et une fois qu'on connaît le Seigneur, on peut mettre un nom. Ça, c'était le Saint-Esprit qui travaillait en moi. La première chose que l'Esprit Saint fait pour nous, et on pourrait parler de son œuvre dans l'Ancien Testament, etc., mais on va rester avec le Saint-Esprit et le disciple. La première chose que le Saint-Esprit fait en nous, c'est qu'il nous convainc. En Jean chapitre 16, verset 8, Jésus dit « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » L'Esprit Saint, la première fois, peut-être qu'on ressent son influence, on n'est pas très à l'aise. On entend l'évangile, on n'est pas converti, certains ici peuvent se dire, oui, je me souviens très bien, quand j'ai entendu l'évangile les premières fois, je n'étais pas converti. Beaucoup pourraient dire, ça ne m'a fait ni chaud ni froid les premières fois. Même, je me demandais si j'allais revenir. Mais alors, quand je suis parti, je suis rentré à la maison, je me suis couché, et là, dans la nuit, dans l'obscurité, je n'arrivais pas à m'endormir. Généralement, je dors bien. Ce que j'ai entendu me revenait, puis je commençais à me sentir de plus en plus mal dans mon cœur, dans mon intérieur. Et je commençais à être mal à l'aise. Et je commençais à me sentir comme si j'avais fait quelque chose de très grave. Pourtant, je ne vois rien de ce que j'ai pu faire qui était très grave, mais ça ne me lâchait pas. Avec le passage des jours, la sensation s'intensifiait et je me sentais sale, je me sentais impur. Et puis alors, ce malaise est devenu de l'angoisse. Et j'ai commencé à penser, mais ce Dieu, je ne le connais pas. Qui peut me délivrer de ce poids? Mais ce péché, nous l'avions avant d'en éprouver la conviction. on l'a eu depuis toujours, mais ça ne nous a jamais rien fait de trop grave. Et là, tout à coup, ça devient insoutenable. Comment se fait-il que le péché, qu'on passait pour quelque chose de banal, devient quelque chose de très grave? D'où vient qu'on ait eu cette idée? C'est l'effet de l'Esprit-Saint. La conviction de péché. Et mes amis, comme vous savez comme moi, que Jésus-Christ veut sauver quiconque s'approche de lui, mais il faudrait quand les gens s'approchent de lui, ils comprennent, ils ressentent même dans leur cœur qu'ils sont pécheurs. Si on doit dire, eh ben, j'ai parlé avec lui une demi-heure, j'ai bataillé dur, enfin il m'a dit qu'il était pécheur. Alors j'ai fait la prière avec lui, c'est bon. Il y a un problème là. Peut-être vous l'avez convaincu, mais il sera votre converti. Si le Saint-Esprit ne l'a pas convaincu, il n'y aura pas de vraie repentance parce qu'il n'y a pas eu de vraie conviction. Nous ne pouvons pas produire cette conviction. Mais nous pouvons annoncer la parole. Nous pouvons expliquer ce qu'est le péché. Nous pouvons expliquer la sainteté de Dieu. Mais pour faire ce travail-là, l'Esprit-Saint est le seul qui peut le faire. Et si vous êtes sauvés ce soir, vous vous souvenez de cette conviction de péché. Jean chapitre 12, verset 32, Jésus dit cette phrase bien curieuse, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Comment Jésus nous a-t-il attirés à lui? Par l'Esprit Saint. D'abord la conviction de péché. Je suis perdu. Comme dit Paul dans sa sanctification, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» J'ai besoin d'un sauveur. Tout à coup, on voit sur l'horizon venir quelqu'un qui nous tend la main et qui dit « Moi, je peux te sauver. » On nous explique « Jésus peut te sauver. » Jésus veut te sauver. Jésus te sauvera. Si tu viens à lui tel que tu es. Et alors, à cet appel à venir à Christ, nous les ambassadeurs, qu'on dit aux gens, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Que fait le Saint-Esprit dans le cœur de cet homme ou de cette femme à qui on s'adresse? Peut-être pas tout de suite à l'instant, mais dans les heures et dans les jours qui viennent, il crée en lui le désir de venir à Christ. Ce serait merveilleux si tous les hommes, à l'âge de 5 ou 6 ans, disaient « Papa, je voudrais connaître mon Créateur, devenir une nouvelle créature et être un enfant de Dieu. » Mais ça n'arrive pour personne sans avoir entendu l'Évangile. On ne se tourne pas naturellement vers Dieu. Mais avec cette conviction, le Saint-Esprit nous attire au pavillon Laman. Mais d'une manière persuasive. Il nous montre notre besoin d'un sauveur et puis il nous révèle qui est ce sauveur et comment il peut nous sauver. Alors, on y va, mais on ne sait pas trop comment il va nous sauver, n'est-ce pas? On n'a pas trop d'idées ce qu'il va faire en nous, mais on sait qu'on a besoin de lui. C'est comme si on se noyait et puis le maître nageur vient vers nous et puis avant qu'il nous prenne, on dit « Oh, attendez !» À quelle école de maître nageur avez-vous été? Comment entendez-vous me prendre? Pensez-vous pouvoir me sortir de cette eau sans que... Non, on est trop loin pour poser ce genre de questions, on se laisse faire. Et on vient et on dit, Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais fais ce que tu dois faire, je suis perdu, sauve-moi. Et il nous sauve. Et peu à peu, on commence à constater les changements qui surviennent dans notre vie et notre entourage les constate. L'autre jour, une de nos anciennes voisines, elle avait 5, 6, 7, 8 ans quand on vivait à côté de chez elle. On l'a perdue de vue depuis 30 ans et il y a quelques semaines, elle est venue au Seigneur grâce à notre fille Esther. Et à son père, elle dit, tu sais papa, j'ai changé. Ah bon, tu as changé en quoi? Écoute, c'est nouveau pour moi, je ne sais pas te l'expliquer, mais lis ces lignes-là. Et puis elle lui a montré Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Oui, mais quand il y a quiconque, et quand il y a le monde, j'ai mis mon prénom Delphine. Voilà ce qui a changé. Voilà ce qui a changé. Et elle sent qu'elle change. Et à son travail, les collègues, Delphine, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus stressée comme avant. Elle dit, toi, tu es athée, on en a déjà parlé, tu ne vas pas apprécier ma réponse. Dis toujours, je lis la Bible et j'ai fait la paix avec Dieu. Ah bon? Ah oui. Le changement du cœur. J'étais attiré vers Christ. Je suis venu à Christ. Cette jeune femme, quand on lui a présenté la Bible, elle a dit, c'est merveilleux, c'est joli. Oh, j'aime cette Bible, mais je ne la toucherai pas. J'ai peur de toucher la Bible. On m'a toujours dit, attention, c'est un livre dangereux, il ne faut pas trop y toucher. Maintenant, elle la dévore, parce qu'elle en connaît l'auteur. Que de choses qui doivent tomber, mais la conviction du péché et cette attirance vers le Seigneur. Voilà déjà le Saint-Esprit nous a pris dans notre perdition. Il est venu avec son épée, puis il a commencé à percer dans ce cœur, qui ne s'occupait pas le moins du monde de Dieu, comme les gens dans la rue qui disent, écoutez, vous êtes bien gentils, mais je n'ai pas le temps de m'occuper du problème de Dieu. Vous comprenez? Le problème de Dieu, j'aime bien ça. Le problème de Dieu, mon pauvre, Dieu n'est pas ton problème, c'est toi ton problème. Hein? Dieu est la solution à ton problème. De cette attitude-là, les voilà qui disent, je ne sais pas l'expliquer, mais quelque chose a changé en moi. L'œuvre de l'Esprit Saint. Alors, heureusement, l'Esprit Saint n'est pas comme une sage-femme qui dit à la maman, mais voilà, ça y est, votre bébé est né, tu l'entends pleurer, faut lui donner le sein ou le biberon, et voilà, j'ai d'autres choses à faire, au revoir madame, bonne vie à vous et à votre enfant. Heureusement que le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Il n'a pas dit, je t'ai amené à Jésus-Christ, maintenant tu marches avec ton sauveur, j'ai d'autres choses à faire, heureusement non. Il n'a fait que commencer son travail. Il ne va jamais nous quitter. Jamais nous quitter. Pendant longtemps, je pensais, il ne va jamais me quitter jusqu'au ciel. Puis j'ai appris en lisant la Bible, mais même au ciel, il ne va pas me quitter. Il a dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Avez-vous pensé que, quand vous serez au ciel, peut-être pour la première fois, l'Esprit Saint sera vraiment très à l'aise en vous et en moi? Plus de péché. Qu'est-ce qui peut attrister l'Esprit Saint? Le péché. Est-ce que vous êtes un maniaque de la propreté? Certains, je pense, le sont, d'autres ne le sont pas. Faut pas être trop maniaque parce qu'il est impossible de garder son logement toujours parfaitement propre. Mais c'est bien quand même d'essayer. C'est quand même plus agréable. L'Esprit Saint, un esprit de sainteté, c'est un esprit de propreté. De propreté. Et il veut nous rendre propres. Alors au début, c'est un peu comme le fermier. Vous dites au fermier, écoutez, votre grange, c'est pas très propre, vous devriez nettoyer. Ah ben d'accord, je vais lui faire. Alors il prend sa fourche, il enlève les bottes de foin qui restent, il prend une espèce de gros balai qui sert à balayer un peu, il balaye un peu, il dit voilà, ça y est, c'est propre, la grange est propre. C'est propre pour une grange. Oui, c'est vrai que c'est propre, enfin pour une grange. Puis la femme de ménage vient. On dit, mais c'est pas propre, monsieur. Il y a des toiles d'araignée un peu partout. Et puis là, il y a de la poussière. Écoutez, madame, c'est pas mal, hein? Oui, mais je vais arranger ça. Et elle va aller, et elle a une toute autre idée de ce qu'est la propreté. Et ça va frotter avec la serpillière et tout ça. Et puis, ça va être propre. Et nous, même, on va dire, ça, c'est du propre. Ça, c'est bien. Puis vous avez le laborantin qui arrive. Il dit, mais c'est pas propre ici, mais c'est un nid de microbes. Mais je n'y crois pas. Et cette personne commence à tout passer à l'eau de Javel, et puis il y a d'autres produits qui vont tuer tout ce qui rampe, hein, qui est invisible, partout, et à la fin, ça devient un laboratoire médical. Là, c'est propre. Il n'y a plus rien qui vit là-dedans. Hein. Les bactéries sont tous parties. Et on vit ça dans notre vie chrétienne. Une fois qu'on se convertit, oulala, alors les péchés sont gros comme des ballots et tout ça. Allez, du balai, le Saint-Esprit fait du ménage là-dedans. Et on dit, là, je crois quand même que je suis arrivé à un bon résultat. Là, maintenant, je vois les autres gens de l'Église, je ne suis pas en reste. Ah, je pense que là, je suis dans la bonne moyenne, même peut-être un peu au-dessus de la moyenne. Mais l'Esprit Saint n'est pas de cet avis, mais il ne va pas vous le dire tout de suite. Heureusement qu'il ne nous dit pas tout de suite. Mais il va patiemment continuer le travail de sanctification. Et au bout d'un petit moment, si on coopère, on va en être à être sensible à nos réactions quand on nous provoque. Avant ça, on est sensible à la provocation. Et quand quelqu'un dit, mais alors tu n'agis pas bien, mais attends, il ne fallait pas me provoquer. Je ne suis quand même qu'un homme, hein. Encore ne vient pas me provoquer, là. Il me cherche, il me trouve. Où le Saint-Esprit dit, où il y a encore du travail à faire, là. Il y a un mort à soi-même à opérer. Puis au bout d'un moment où l'Esprit-Saint nous laboure et nous travaille, on commence à dire, Seigneur, j'en suis encore à mes droits, à ce que j'estime comme droit, en termes de correction, en termes de politesse. Je me prends encore trop au sérieux. Je suis mort avec toi. On a dit, il y avait un jour un moine qui est allé voir le prieur supérieur dans son monastère, et puis il dit, ô Père, que dois-je faire? Que dit Saint Paul quand en Romains il dit, mourez à vous-même? Il dit, vous connaissez Saint Ambroise, le fondateur de notre ordre, dont le tombeau est là-bas? Oui, mon Père. Mais va, écris 3 pages d'éloges, de bénédictions, de compliments, et va sur son tombeau et lis tes 3 pages d'éloges à Saint Ambroise. Alors, d'accord, mais c'est formidable. Alors, il rédige ses lignes, et puis, plein d'admiration, il va, il déclame ses 3 pages devant Saint Ambroise, il revient, et il dit, mais écoutez, voilà, j'ai fait ce que vous avez dit, mon père. Il dit, bon, maintenant, ce que je vais vous demander, mon fils, c'est très difficile. Vous allez écrire 1 page d'insultes et de calomnies à l'égard de Saint Ambroise. Oh, mais mon père, je ne peux pas faire une telle chose, mais j'admire trop ce saint. Vous allez faire ce que je vous dis. Je suis le supérieur de l'ordre. Ah oui, mon père, bien sûr. Puis il va écrire, mais il est presque avec des larmes, des insultes qui ne croient pas en mot, mais comment va-t-il pouvoir les dire sur la tombe de Saint Ambroise? Mais il s'exécute parce qu'il sait qu'il doit le faire, et puis à la fin, il rentre, mon père, j'ai fait ce que m'avait dit. Mon fils, comment il a réagi, Saint Ambroise? Mais il n'a eu aucune réaction. Voilà, mon fils, ce que voulait dire Saint Paul quand il dit d'être mort à soi-même. Pas de réaction devant la provocation. Mais vous n'allez quand même pas me demander d'être une lavette. Ah non. Dieu vous demande d'être un héros, purifié, sanctifié par l'Esprit. Le dernier bastion à tomber dans notre vie, c'est ce bastion de « je crois qu'on me doit quand même ». Est-ce qu'on me reconnaît pour ce que je suis? Là, ça touche l'ego, le moi, ma valeur. Les psychologues nous disent que tous les hommes ont besoin de reconnaissance, d'être reconnus. Et nous devons reconnaître les uns les autres et ne pas nous provoquer les uns les autres. Mais si d'aventure on vous provoquait, on vous calomniait, on vous critiquait, quelle est votre réaction? Quelle est ma réaction? Oui, c'est bien que le Saint-Esprit ne nous ait pas dit adieu une fois qu'il nous a sauvés. Il reste avec nous pour continuer ce travail de sanctification. Alors, d'abord dans la conversion, il nous régénère. Tite 3, verset 5. Vous êtes régénérés par le bain de la régénération et par le renouvellement du Saint-Esprit. Comme on régénère une batterie en mettant un chargeur, le Seigneur prend quelqu'un qui est spirituellement mort et il lui donne la vie de Dieu. Quand vous avez dit, Seigneur, entre dans mon cœur et sauve-moi, la vie de Dieu est entrée en vous. La vie de Dieu avec toute sa puissance, avec toute son éternité. Dieu le Saint-Esprit, représentant le Père et le Fils, est venu et il est la vie de Dieu. Et il vous a donné la vie de Dieu. Et vous ne perdrez jamais la vie de Dieu. Vous êtes régénéré. Vous êtes vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et vous ne mourrez jamais jusque dans l'éternité. Vous avez la vie de Dieu en vous, la régénération. Un passage extrêmement important, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. D'ailleurs, au congrès de Toulouse en 1977, si vous avez lu le livre à ce sujet, écoutez les messages, ce verset était le verset central de tout le congrès. 1 Corinthiens 12, verset 13. Mémorisez ce verset, il vous servira tout le restant de votre vie. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons été, passé composé, action terminée, le passé dont les conséquences restent avec nous. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit avec le résultat que, depuis ce moment-là, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Nous avons tous les croyants véritables ont été baptisés du Saint-Esprit. Ce tous est important quand nos amis disent, oui, mais il faut qu'il y ait le parler en langue aussi. Si vous n'avez pas parlé en langue, vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais dans le même passage, il y a tous parlent-ils en langue? Non. Tous prophétisent-ils? Non. Tous interprètent-ils? Non. Mais tous ont été baptisés du Saint-Esprit. Tous les vrais croyants ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais, quel est le but de ce baptême du Saint-Esprit? C'est pour former un seul corps. Quand vous rencontrez un autre chrétien que vous ne connaissez pas et vous êtes sauvé, ah oui, moi, je veux dire, est-ce que tu as, parce que c'est étonnant de rencontrer un autre chrétien, tu as vraiment reçu Christ en ton cœur? Oui, c'est formidable. Tu es passé par la nouvelle naissance? Mais oui, bien sûr, c'est ce que je vous dis. Ah mais on est frères et sœurs en Christ. On est frères en Christ. Mais c'est formidable. Et on sent l'amour qu'il a immédiatement. D'où vient cet amour? D'où vient ce sentiment d'appartenance? C'est le résultat du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, on ne ressent rien. Mais les effets, on les ressent chaque fois qu'on rencontre un autre chrétien et on ressent ce lien d'unité. Indissoluble, tu es mon frère, tu es ma sœur, nous sommes dans la famille de Dieu, pour former un seul corps. Au premier siècle, il y avait bien des problèmes dans la société, il y avait bien du racisme, surtout chez le peuple juif d'ailleurs. Mais les barrières de racisme et toutes ces choses humaines sont tombées dans l'Église, grâce au baptême du Saint-Esprit. Juifs, grecs, esclaves, libres. Il n'y a plus de caste sociale, il n'y a plus de différenciation raciale ou ethnique. En Christ, on est en Christ. La couleur de la peau, l'arrière-plan, ça n'a aucune importance. Quand on est en Christ, on est unis aux autres. Quand on va dans un pays étranger, surtout si on ne connaît pas la langue, et on va dans une église de gens vraiment régénérés, on ne peut pas leur parler, ils ne peuvent pas nous parler. Ils chantent des cantiques, on reconnaît un air, on voit leur joie, on dit, ça c'est mes frères et mes sœurs. On se sent unis à eux, alors qu'on n'a même pas pu leur parler, ils n'ont pas pu nous parler. Le baptême du Saint-Esprit produit ce sentiment d'appartenance. Non seulement ça, il nous a baptisés, mais verset 13 nous dit aussi, et nous avons tous été abreuvés dans son esprit. Encore une fois, nous avons été, c'est passé composé, action définitive, dont les résultats sont avec nous. Aujourd'hui, vous êtes abreuvés du Saint-Esprit. Vous dites, mais non, mais moi je ne suis pas abreuvé du Saint-Esprit. J'ai encore soif d'avoir davantage le Saint-Esprit. Et parfois on entend des chrétiens, Seigneur, donne-nous davantage de ton Saint-Esprit. Il ne le fera pas. Et pourquoi il ne le ferait pas? Parce qu'il t'a déjà tout donné. Quand on est abreuvé de quelque chose, c'est qu'on a tout ce qu'il faut avoir. Si on vous donne à boire 3 litres d'eau, vous allez dire, écoutez, je ne veux pas boire un autre litre, je suis abreuvé. C'est de l'eau, hein? J'ai tout mon sou le dos, hein? Je ne peux pas en avaler une autre goutte. Vous avez tout l'Esprit Saint que vous n'allez jamais avoir. J'ai tout l'Esprit Saint que je vais avoir même. Maintenant, le problème de soif ne vient pas de ce qu'on n'est pas assez d'Esprit Saint, ça vient de ce qui n'a pas assez de nous. C'est une, il nous a tout donné, lui, et maintenant il réclame qu'on lui donne notre être. Et quand on garde un domaine de notre vie en dehors de sa direction, l'Esprit Saint attristé et nous sommes en manque. On sent qu'il nous manque quelque chose. Ce qui nous manque, c'est la consécration de ce domaine-là entre les mains de Dieu. Mais nous avons l'Esprit Saint pleinement dans notre cœur. Et puis, 2 Corinthiens chapitre 1, c'est un autre passage phare, s'agissant des ministères du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 1, verset 21. Il y a tout un petit lot de choses que l'Esprit Saint a fait en vous et moi. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Vous dites, oula, il y a trois choses en un seul verset. N'oubliez pas, en Corinthiens 12, 13, 2 Corinthiens 1, 21. Pourquoi? Parce que, d'abord, l'Esprit Saint vous a oint à votre conversion. Il nous a oint. Qu'est-ce que c'est que l'onction du Saint-Esprit? Encore une fois, c'est à quel temps de verbe? Il nous a oint. Passé composé, action définitive. L'onction sert à quoi? Dans la Bible, l'onction servait toujours au service. On oignait les rois, les sacrificateurs et les prophètes avec de l'huile, symbole de l'Esprit Saint. Et cette onction voulait dire Dieu a choisi cet homme pour le servir dans ce domaine. Tous les enfants de Dieu ont été oints du Saint-Esprit. Ça veut dire que tous les enfants de Dieu sont oints, sont choisis et officiellement établis par Dieu pour le servir. Si vous êtes sauvés, vous êtes oints. Si vous êtes oints, vous pouvez servir Dieu. Vous pourrez le servir grâce à vos dons spirituels, les dons spirituels que ce même Esprit Saint vous a fait. Mais vous avez l'autorisation de servir Jésus-Christ dans son Église et dans le monde parce que vous avez été oint pour cela. Mais j'étais oint pour devenir quoi? Vous êtes oint pour devenir rois et sacrificateurs. L'apôtre Pierre nous le précise en royaume de sacrificateurs. Vous vous êtes qualifiés, nous sommes oints, nous sommes choisis, nous sommes établis comme un sacrificateur d'aller parler des hommes à Dieu par la prière et d'aller parler de Dieu aux hommes par l'évangélisation. Nous avons un ministère de réconciliation. Les hommes sont en froid avec Dieu. Nous pouvons les prendre chacun d'une main, imitant cela notre seul médiateur Jésus-Christ. Et dire Jésus-Christ peut te faire rejoindre Dieu. Il te tend la main, saisis sa main, tu seras réconcilié avec lui et nous pouvons faire cette opération. Nous, on est juste le messager. Christ va le faire, l'Esprit Saint va le faire, mais il veut qu'on participe avec lui. Et puis, nous sommes des rois, nous allons régner avec Christ. Nous ne sommes pas pour la couronne maintenant, ça viendra plus tard, mais nous régnerons avec le Seigneur. Après, nous avons été scellés. Hier soir, Samuel nous en a parlé. Ce sceau d'appartenance. À l'époque, on avait tout un travail de commerce de bois. Il y avait des rivières, la Méditerranée, etc. Et puis, alors, on coupait des centaines de rondins, des troncs d'arbres. Et puis, les négociants faisaient imposer leurs sceaux brûlés dans le tronc d'arbre. Et on organisait des radeaux de milliers de rondins qui partaient ensemble. Et à l'arrivée, au négoce de bois, il fallait que les hommes à la réception trient par rapport au sceau. Tiens, tel détaillant a reçu 100 rondins, tel autre a reçu 75, et les coupeurs de bois mettaient le sceau du propriétaire pour que chaque usine sache quels étaient les troncs d'arbres qui lui étaient destinés. Eh bien, quand le Seigneur vous est allé vous chercher et que vous êtes tourné vers lui, il vous a marqué de son sceau d'appartenance. Vous ne pouvez pas l'effacer, lui ne veut pas l'effacer, vous êtes à lui. On le chante, je suis à lui, il est à moi, je suis à lui. Vous lui appartenez? Je lui appartiens. Quel est le signe distinctif? Quand Dieu vous regarde, comment sait-il que vous lui appartenez? Il a mis en vous un sceau, quel est ce sceau? Ne cherchez pas dans le miroir ce soir, vous ne trouverez pas derrière votre nuque ou comme un tatouage quelque part. Le sceau, c'est l'Esprit Saint. Quand Dieu voit dans votre cœur, il voit l'Esprit Saint, il dit, celui-là, il m'appartient. Il le sait, bien sûr. Mais il le constate. Parce que l'Esprit Saint lui-même nous sert de sceau. Et puis, il est les heures de l'esprit. Celui qui va acheter une maison ou parfois une voiture, il dit, écoutez, j'ai pas de quoi payer tout maintenant, mais je vous verse des heures. Combien voulez-vous que je vous verse en heures, en gage? Oh, mais écoutez, pour retenir la maison, 5 000 euros, ça vous va? Oui, ça va, 5 000 euros, je peux le faire. Bon, écoutez, je mets les heures de côté, je ne les touche pas, mais si vous n'achetez pas la maison, vous perdez les heures. Bon, bien d'accord. Oui, c'est ça. Alors, vous aspirez de tout cœur, vous n'allez jamais les perdre. Vous êtes assez sûr de votre affaire et vous versez les heures. Et là, c'est retenu, monsieur. Je ne peux pas vendre cette maison à quelqu'un d'autre. C'est vous qui êtes priorité. Vous avez pris une option. Et là, terminé. C'est pour vous. Maintenant, j'attends le reste. Mais cette maison est pour vous parce que vous avez versé les heures que j'ai. Je vous donne d'ailleurs un reçu. Voilà. Vous savez ce que Dieu a fait pour vous? Il a dit, écoutez, je vais vous donner le ciel, je vais vous donner une demeure éternelle, je vais vous donner de régner avec moi pour l'éternité, je vais vous donner une vie merveilleuse au-delà de toute description. Et il dit, et je vais vous verser des arts. Je vais vous donner quelque chose, ou on pourrait dire quelqu'un. Et le fait que je vous donne cette personne est une preuve que je vais vous donner tout le restant que je vous ai promis. Maintenant, pour le restant, il faut attendre un peu. Mais je vous verse les arts dès à présent. Et quand le Seigneur vous a donné l'Esprit Saint, vous avez par là la preuve formelle qui vous donnera le ciel, une vie au-delà de toute imagination avec lui, de régner la gloire, l'honneur, la majesté avec Jésus-Christ pour l'éternité. Parce que il ne peut pas perdre les arts. Pourriez-vous, et permettez-moi, et avec moi un peu d'imagination sanctifiée, mais pourriez-vous imaginer Dieu le Père et Dieu le Fils qui se consultent ensemble et qui se disent, tout compte fait, c'est une mauvaise expérience, cette histoire de salut et ces humains, et puis ils ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Je crois qu'on ne va pas leur donner le ciel, on va revenir en arrière sur toutes nos promesses. Savez-vous, selon l'Écriture, ce qui arriverait, il perdrait le Saint-Esprit. Ça ne peut pas se faire. Mes amis, si vous êtes sauvés ce soir, soyez certains, aussi certains que l'Esprit-Saint et Dieu lui-même, liés indissolublement avec le Père et le Fils, que vous finirez dans la gloire. Dieu peut nous faire passer par des chemins difficiles, par la sanctification, par des épreuves, mais vous finirez dans la gloire. C'est le sens des arts de l'esprit. Alors, tout ça a lieu en même temps, à la conversion. Régénération, baptême du Saint-Esprit, abreuvé du Saint-Esprit, oint du Saint-Esprit, scellé du Saint-Esprit, et on reçoit les arts de l'esprit. Vous dites, bon, mais alors, tout ça le jour de la conversion. Que reste-t-il maintenant? Il a tout fait. Je ne vois pas ce qu'il pourrait encore faire. Ne vous en faites pas, il y a plein d'autres choses. Bon, je regarde l'heure aussi, mais il y a plein d'autres choses. Premièrement, Jean chapitre 14, verset 12, il va demeurer en nous. J'aime le mot demeurer. Demeurer, c'est on est à l'aise. Si on vous fait dormir sur le canapé derrière la cuisinière dans la cuisine chez quelqu'un, vous ne pouvez pas dire « je demeure là ». C'est comme si vous prenez le car et puis il y a juste le strapontin. Là, on vous fait comprendre, vous êtes de trop. Hein? On vous permet de vous asseoir, mais comprenez que vous allez gêner le passage. Enfin, ça nous aurait arrangé que vous ne veniez pas sur ce voyage. Hein? Mais quand on vous installe dans la grande chambre et on dit « faites chez vous comme faites chez moi comme chez vous, ma maison est à vous. » Vous dites, oh, je me sens bien accueilli. Le Saint-Esprit voudrait être chez lui, chez vous, chez moi. Il va demeurer avec nous. Il ne va jamais nous quitter. Vous n'avez pas signé un bail précaire avec l'Esprit-Saint pour un an. Il est entré, c'est pour de bon. Il veut demeurer, il va demeurer, il va rester vivre avec nous. Vous imaginez dans un couple, ils se marient et puis l'homme, très sur les fonctions de chacun. Bon, maintenant qu'on est marié, qu'est-ce que tu comptes faire? Quel est ton programme pour le restant de ton mariage avec moi? Et elle dit, oh ben, mon chéri, quelle question! Non, mais il faut être pratique, il faut être terre à terre. Le romantisme, ça a assez duré, là, c'est bon, on a dit oui. Bon, alors qu'est-ce qu'on bosse là? Comment tu vas? Et elle dit, mais je ne voyais pas comme ça, je croyais que le mariage, c'était, on allait juste être ensemble. Oh ben non, hein, être ensemble, ça fait avant peu, mais il faut que... Mes amis, le Seigneur de l'univers, il est tout content juste d'être avec nous. Juste de demeurer avec nous. De vivre avec nous. Nos époux, parfois, ne voudraient pas trop parfois vivre avec nous, c'est tellement difficile, mais l'Esprit-Saint est toujours d'accord de demeurer en nous. Non seulement il demeure en nous, mais là, il peut tout faire, ce qu'il veut faire en nous. Il nous donne accès au Père. Par l'Esprit, vous avez accès les uns et les autres, dans un seul Esprit, au Père. Quand vous priez, et quand je prie, et parfois mécaniquement, Seigneur, notre Père et Dieu, nous... Et puis, bon, maintenant, je vais commencer à réfléchir à ce que je vais dire, parce que là, c'est la partie automatique. Je démarre mes prières toujours comme ça, à fond de train, et après, je réfléchis un peu. Pensons la prochaine fois qu'on prie, quand vous dites Seigneur, notre Dieu et Père, qui vous a permis de dire une telle chose? Et qui permet que le Père puisse vous entendre? Qui a ouvert la voie pour arriver jusqu'à lui? C'est l'Esprit Saint. C'est lui qui vous donne accès. Chaque fois qu'on prie, c'est par l'Esprit Saint que vous accédez à la présence, au trône de la grâce. Non seulement ça, non seulement il donne accès au Père, mais en Romains 8, verset 16, il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a rien de plus précieux que de voir un papa ou une maman marcher avec son enfant, la main sur sa petite épaule, comme ça. On va à l'école, on marche ensemble. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent? Mais le papa ou la maman, ils se baissent et puis ils disent à l'oreille du petit, « Je t'aime. » Il fait un bisou et puis dit, « Bonne journée à l'école. » Oh, on dit, ça c'est beau. Combien cet enfant doit être heureux d'avoir de tels parents. Figurez-vous que l'Esprit Saint est aussi délicat que ce papa ou cette maman, bien plus encore. Il vient nous dire au creux de notre âme, je t'aime, tu es mon enfant. Tu es mon enfant adoptif. Les enfants parfois adoptifs, ils veulent connaître leurs vrais parents, on les comprend. Il faut qu'ils jamais n'oublient, je sais qu'on m'a voulu. Parfois les enfants qui sont nés de mêmes parents, quelquefois, attention, ils entendent papa et maman dire à des amis par là qui ne savent pas que l'enfant les entend. Oui, le troisième, c'était un peu une erreur. On ne s'y attendait pas. On est très heureux de l'avoir, mais c'était quand même une grosse surprise. C'est pas une bonne chose à dire. L'enfant veut sentir qu'il a été attendu et aimé. Même si il fallait s'ajuster dans les premières semaines, mais on vous avait 9 mois quand même pour vous y préparer. Mais quand il arrive, il faut, oupi, on a un enfant, c'est merveilleux. C'est un don de Dieu. Eh bien, l'Esprit Saint nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Je t'aime, tu es mon enfant. Il témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit Saint. Conduits. Nous, les hommes, on est autonomes. Il faut que je vous raconte ceci. On a un petit-fils qui va avoir 8 ans au printemps. Alors, à 8 ans, on peut aller au camp arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous le saviez. Alors, l'année prochaine, dit-il à maman, l'année prochaine, ben, je vais au camp. Je vais vous quitter, toi et papa. Puis, je vais être autonome. C'est le mot qu'il emploie. Je vais être autonome. 7 ans. Ouh, ça promet. Mais on a tous envie d'être autonome et je peux me débrouiller tout seul. Le Seigneur dit non. Mais si j'ai 20 ans de vie chrétienne, je te dis non. Mais j'ai l'expérience, je suis même pasteur. Raison de plus, non. Viens, je vais te conduire. Combien de temps faut-il que je prenne ta main, Seigneur, le restant de ta vie? Il vaut mieux s'habituer. Vous pouvez venir prêcher dans notre église? Oui, j'ai prié à ce sujet. Je veux être conduit par l'Esprit de Dieu. Et que penses-tu par rapport à ce problème théologique? Il faut que je prie, que j'étudie la parole, je vais être conduit par l'Esprit de Dieu. Et que penses-tu par rapport à cette situation un peu? Je ne sais pas, il faut que je prie, je vais être conduit par l'Esprit de Dieu. Plutôt que, mon avis, c'est... Non. Conduit par l'Esprit de Dieu. De sentir, je ne sais rien. Paul il a bien dit aux Corinthiens, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas su comme il fallait savoir. Hein, quelque chose comme ça. Il n'a pas connu comme il fallait connaître. Parfois, on sait tellement bien qu'on ne sait rien du tout. Hein. Et le Seigneur dit, laisse-moi te conduire. S'il veut nous conduire, pourquoi ne pas lui en laisser l'occasion? Il va nous conduire dans toute la vérité. Il va nous enseigner, Jean 14. Il va nous consoler. Nous consoler. On en a besoin parfois. Même les hommes ont besoin parfois d'être consolés. Si vous êtes marié, si vous êtes une femme et vous êtes marié à un homme, déjà c'est... Bravo. Mais la maman, quelquefois, elle est obligée de materner même son mari. Hein? C'est pas souvent, mais quelquefois... Bon, c'est dommage quand la maman doit toujours dire, oui, j'ai 4 enfants, donc nous avons 3 enfants, et puis mon mari agit souvent comme un enfant, alors il y a les femmes qui le vivent et qui le disent, hein, c'est terrible. Mais de temps à autre, même le grand costaud que nous sommes, on a besoin d'être consolés. Le Saint-Esprit est plus délicat qu'une mère. Il sait nous consoler. J'ai perdu ma mère en 1996 et nous sommes revenus une année plus tard pour voir mon père. Et on était assis dans son salon et ça faisait un an qu'il était veuf. Et le jour, le 11 novembre 1997, il a dit, je veux être seul. J'ai besoin d'être seul aujourd'hui. Je ne veux voir personne, ne venez pas à la maison. Je dis, pas de problème, on viendra plus tard. Quelques jours après, on était là dans son salon et puis il m'a dit, tu vois, avec ta maman, on a servi le Seigneur 35 ans plus. Il a dit, j'ai toujours parlé du Consolateur, j'ai toujours parlé du Saint-Esprit. Je l'ai toujours cru qu'il était le Consolateur. Mais je peux te dire, je n'avais aucune idée à quel point il pouvait consoler jusqu'à ce que ta maman est partie. Je n'avais pas la moindre idée qu'il pouvait consoler comme il a fait pendant cette année. Mes amis, si on vit assez longtemps sur cette terre, on va passer par une expérience où on aura vraiment besoin de la consolation et aucun être humain ne pourra l'apporter au même degré que l'Esprit Saint peut le faire. En consolateur. Il intercède pour nous. J'aime tellement cette pensée de la prière en Romains chapitre 8, 26. Nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Certains m'ont dit, mais si on ne sait pas ce qu'il faut demander, c'est pas la peine de prier. Certains disent, moi j'ai trouvé le truc, que ta volonté soit faite. Genre, ça m'est égal ce que c'est, mais je l'ai prié. C'est pas ça qu'il veut dire. Dieu veut qu'on soit impliqué dans nos prières. Il veut qu'on prie avec l'idée que Dieu veut répondre. Mais quand on ne sait pas comment il faut prier, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, mais si on continue à prier, il va commencer à nous faire entrevoir dans quel sens on devrait prier. Généralement, il révèle sa volonté si on reste assez longtemps et si on est assez intéressé pour connaître la réponse. Mais comment va-t-il nous diriger dans quel sens on pourra prier? C'est l'Esprit Saint. Et que se passe-t-il? Un petit voyage qui se fait. L'Esprit Saint intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Il monte vers le Père avec votre requête. Et il doit dire quelque chose comme ceci. Ton enfant ne sait pas dans quel sens il faut prier, mais il veut prier. Et la Bible dit, l'Esprit sonde les pensées. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est très mystérieux ce que je vous dis là, mais c'est ce qui se passe. Et le Père, d'une manière ou d'une autre, communique à l'Esprit Et l'Esprit nous souffle comment il faut prier. Encore une fois, c'est très mystérieux. Là, nous sommes dans les choses que nous ne pouvons pas comprendre. On ne fait que redire ce que la Bible dit elle-même. Mais il sonde la pensée de Dieu. Et il nous rapporte dans quel sens prier. Ça, c'est de l'intercession. Il nous change. 2 Corinthiens 3:18, nous sommes transformés en la même image quand par l'Esprit du Seigneur. Celui qui plonge ses regards dans cette parole est transformé par l'Esprit du Seigneur. Il nous change. L'Esprit Saint change des gens. Et savez-vous quoi? Nous ne devrions pas nous contenter des changements qui ont déjà été effectués. Est-ce qu'on dit, le curseur, il est là. Je suis sanctifié à 79%. C'est pas mal. J'en connais qui sont à moins de 50, alors ils ont de la marge. Moi, je peux camper à 79% et attendre les autres chrétiens. Ou bien, Seigneur, le changement déjà a été formidable. Il me tarde de voir les prochains changements que tu vas faire en moi. Transformé en la même image. Nous, on en a terminé avec l'œuvre de l'Esprit avant que l'Esprit ait terminé avec nous. Attention. Nous, on est satisfait trop vite de nos progrès, beaucoup plus vite que lui est satisfait des progrès que nous avons faits. Il veut continuer à nous changer jusqu'à la fin de nos jours. Pourquoi? C'est une vérité, une très belle vérité. Vous souvenez-vous ce que le Père a dit au sujet du Fils chaque fois qu'il a parlé quand le Fils était sur la terre? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Père, il aime le Fils. Alors, il aime tout ce qui ressemble au Fils. Et l'Esprit Saint est là pour nous faire ressembler au Fils. On pourrait bien penser que le Père dirait, celui-là, celle-ci, commence un peu à ressembler à Jésus, mais qui ne s'arrête pas là. Continue, deviens plus beau, deviens plus belle, deviens plus comme Jésus. Jésus a dit, ils sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les apôtres étaient connus pour avoir été avec Jésus. Il y avait quelque chose de Jésus qui était resté avec eux. On voyait une ressemblance. Et il nous équipe. Les dons spirituels, c'est pour nous équiper à servir. On ne s'étendra pas. Et nous terminons notre responsabilité envers lui. On pourrait parler longtemps même de ce sujet. On ne le fera pas, mais Actes 5, 1 à 11, ne pas lui mentir. Vous connaissez l'histoire. Ne craignez pas une mort soudaine en plein culte. Dieu n'a pas fait ça pour tous les chrétiens qui lui ont menti. Sinon, nos églises seraient sans doute vides. Nous serions tous les uns et les autres au repos, dans la tombe quelque part. Mais la mort d'Anéas et de Saphira sont là pour nous rappeler le mensonge au Saint-Esprit est sérieux. Et nous mentons peut-être le plus souvent en ne reconnaissant pas qu'on a des choses à régler. En se faisant des petites excuses. Seigneur, merci parce que tu me purifies de tous mes péchés. Sans ajouter, mais il y a plein de péchés que je ne veux pas lâcher. Il n'est pas dupe. Nous, on va finir par être dupe de notre propre mensonge. Mais lui ne sera jamais dupe de notre mensonge. Il saura que c'est toujours un mensonge. L'honnêteté avec l'Esprit Saint, c'est quelque chose. C'est profond. Ça va là où on ne veut pas aller. On a la responsabilité de ne pas lui mentir. On a la responsabilité de ne pas l'attrister. Dans un couple, dans une famille, oh, c'est facile d'attrister son conjoint, ses enfants. Hein? Vous avez un bien-aimé, le visage se ferme. Alors ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Mais je vois bien qu'il se passe quelque chose. Rien, ça va, tu m'énerves, quoi, laisse-moi tranquille. Oula! Écoute, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est pas la peine. Je veux savoir ce que j'ai fait. Je veux demander pardon. Bon, si tu veux. Ah, ça vient, ça vient. Mais l'autre jour, tu m'as accusé de ça. Mais c'était pas moi. Eh bien, ça m'a vraiment attristé. Et vous êtes là. Oula, j'étais loin de penser que ça n'était arrivé là. Quand elle est honnête, mais si la personne se livre, on peut purifier, laver et assainir la relation. On peut finir dans les bras les uns des autres. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous dit. Ne pas l'éteindre. Ne pas l'éteindre, ça veut dire quoi? Perdre son salut? Non, ça veut dire je n'écoute pas ce que me dit l'Esprit Saint, je ne fais pas ce que me dit l'Esprit Saint. Chaque fois qu'il me parle, je dis non ou je ne dis rien. C'est encore pire. Je n'ai rien entendu. L'Esprit Saint dit, j'ai pourtant bien parlé avec, je lui ai parlé, je l'ai insisté, je l'ai rendu mal à l'aise. Il repousse, il repousse, il repousse, il repousse, il repousse. L'Esprit Saint dit, bon. Je vais attendre un autre moment, j'arrête. Et le chrétien dit, « Ouh, ça va mieux. » Ça ne va pas mieux. Tu l'as éteint, le Saint-Esprit. Il a arrêté de t'influencer parce que tu refuses de te laisser influencer. Quel péché terrible que d'éteindre l'Esprit Saint dans notre vie. Au contraire, nous devrions lui livrer nos corps. Ne savez-vous pas que votre corps et le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, donnez donc à Dieu vos membres qui appartiennent à Dieu. Avez-vous jamais dit cette prière à Dieu le Père? Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu et Père, je te donne mon corps, je te donne mes mains, mon âme, mes talents, tout ce que je suis, je te le donne. Ton esprit habite en moi. Utilise-moi, emploie-moi. Si Dieu nous dit que nous lui appartenons, nous devrions nous donner à lui par un acte volontaire et joyeux. C'est soit l'Esprit Saint qui va nous diriger, soit notre nature pécheresse qui va nous diriger. Le choix n'est pas difficile. Mais notre corps va travailler pour quelqu'un. Il vaut mieux le donner franchement à notre Dieu, puisque nous sommes son temple. Lui livrer notre corps, il y a un avantage. Quand le diable vient, viens avec moi, on va faire quelques coups ensemble. Il ne va pas venir lui, le diable, il va envoyer vos copains. On est une petite bande, on va... Je ne peux pas. Pourquoi? Mais mes mains ne sont pas disponibles, je ne peux pas m'en servir pour ça. Et mes pieds ne peuvent pas aller dans cette direction-là. T'es handicapé ou quoi? Ben oui, un petit peu, oui, handicapé pour aller par là-bas, oui. Je suis même paralysé quand il s'agit d'aller avec vous faire les mauvais coups. Mon corps ne peut pas le faire puisqu'il appartient à quelqu'un d'autre qui lui a un autre agenda pour moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais je vais aller prier avec mes amis à l'église. Mais t'es tombé sur la tête ou quoi? Non, 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 mon corps appartient à Dieu et il n'est pas à la disposition du péché. C'est la Bible qui dit ça. Ne livrez pas vos membres comme des instruments d'iniquité, mais livrez-vous vous-même à Dieu pour faire des choses bonnes. Et puis, entretenir sa plénitude. Éphésiens 5, 18, nous terminons avec ce verset. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Oui, soyez au contraire rempli de l'Esprit. Soyez, au contraire, rempli de l'Esprit. En grec, si on veut regarder un peu comment ça se dit, c'est très complexe, mais c'est très parlant. Soyez, au contraire, continuellement en train de vous laisser remplir du Saint-Esprit. Je le répète, soyez, au contraire, continuellement en train de vous laisser remplir du Saint-Esprit. C'est plus parlant que soyez rempli. Parce que si vous êtes rempli, l'évaporation va arriver et ça va descendre. Et comment allez-vous faire pour vous re-remplir? Est-ce que vous avez jamais bu la moitié d'un verre de coca? Si vous aimez le coca. Puis vous regardez, il ne me reste plus que la moitié d'un verre. Oh, mais je remplis-toi de nouveau. Le pauvre verre, écoute, moi, je n'y peux pas. C'est toi qui as bu, hein? Il manque la moitié. Je ne peux pas me remplir. C'est toi qui me vide. C'est à toi de me remplir. Ah bon, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je trouve un endroit où je peux trouver du coca pour remplir mon verre. Vous allez chercher, si vous trouvez quelqu'un qui va peut-être au guichet vous donner un peu plus de liquide pour remplir votre verre. Eh bien, s'agissant de la plénitude du Saint-Esprit, nous pouvons nous laisser remplir à la fontaine de Dieu. Mais à mesure que nous vivons, nous devons revenir souvent et nous devons même rester constamment en lien pour que dès que ça descend, ça se remplit. Dès que ça descend, ça se remplit. Il dit, soyez en train de vous laisser remplir. Nous ne pouvons pas nous remplir de l'esprit nous-mêmes. Nous pouvons nous laisser remplir et on se laisse remplir dans l'obéissance. On se laisse remplir du Saint-Esprit en ne se laissant remplir de rien d'autre. Quand il y a une idole dans notre vie, cette idole va prendre de la place. Cette place-là, l'Esprit Saint ne peut pas l'occuper. Quand on abandonne l'idole, quand on abandonne le péché, quand on dit, Seigneur, autant que je puisse voir dans mon cœur, je ne veux que ton influence, j'ai renoncé à toutes les autres influences, je veux te servir, le vase est propre, je suis prêt, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, il le fera tout de suite. C'est sa volonté. C'est un ordre. Il dit, si vous voulez l'être et vous n'êtes rempli de rien d'autre, vous pouvez être immédiatement rempli de l'Esprit Saint. Vous ne sentirez rien, sans doute, mais vous serez rempli de l'Esprit Saint. Jésus faisait des miracles, des prodiges, prêchait et enseignait. La Bible dit, une vertu sortait de lui et les guérissait tous. Et Jésus était Dieu. Mais il est allé se laisser remplir. Non pas qu'il était vide, mais il avait besoin de ce contact avec son Père tôt le matin, partir dans un lieu désert, prier son Père. Il dépendait de son Père comme vous devez dépendre du Seigneur. Il a vécu comme nous pour nous montrer un exemple. Et comme lui était homme, il avait besoin de ce renouvellement de contact avec son Père. Nous avons besoin également de passer du temps avec lui pour être remplis. Quand le ministère ou autre chose nous accapare, ou alors quand le péché vient prendre de la place, dégager cela et venir se faire remplir. C'est le seul ordre que nous ayons concernant l'Esprit Saint dans la marche quotidienne. Nous ne pouvons pas être rebaptisés, nous ne pouvons pas être recelés, nous ne pouvons pas recevoir une nouvelle onction. Toutes ces choses ont été faites une fois pour toutes. Le seul commandement au sens continu, c'est soyez continuellement en train de vous laisser remplir de l'Esprit Saint. Et bien que l'Esprit Saint puisse faire en nous le ministère qu'il souhaite faire. Prions. Notre Dieu et Père, nous voulons te remercier pour la personne que tu es. Merci pour ton Esprit Saint. Nous l'aimons et nous voulons l'honorer devant ta face. Quand nous voyons, Seigneur, dans quel état nos cœurs peuvent être parfois. Et de savoir que ton esprit de sainteté demeure en nous et la tristesse qu'il peut éprouver de vivre dans une telle pollution. Permets-nous de comprendre à quel point nous avons besoin de cette pureté. Aide-nous à en faire une priorité dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, à comprendre pleinement ces choses pour faire l'accueil le plus grand possible à ton influence dans notre vie par ton Esprit Saint. Nous te prions de nous aider à repérer et à chasser toutes ces pensées qui tourne autour de notre valeur, de notre importance, de notre suffisance. Seigneur, Montre-nous à quel point nous ne sommes rien. Et fais-nous la joie d'être tout ce que tu dois être en nous. C'est tellement mieux. En Jésus-Christ. Amen.